pour le podcast Enfanter et devenir.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Enfanter et devenir, un podcast dédié au récit de naissance à soi et au monde. Naître à soi et naître au monde. Des temps de passage forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Bienvenue dans Enfanter et devenir, le podcast dédié à l'accompagnement respectueux des enfants, mais aussi à l'empouvoirment via la parentalité. Après 2 saisons axées sur des récits de naissance uniquement, il va y avoir du nouveau. Ça va être un joyeux bazar ici. Alors préparez-vous à être inspiré, informé et motivé dans votre parcours de parent, mais pas que. Ici, nous explorons ensemble les différentes facettes de ce merveilleux voyage qu'est la parentalité, en mettant l'accent sur l'accompagnement respectueux des parents et des enfants, mais aussi sur l'écologie, parce que bon, on n'en parle jamais trop. Je suis ravie de vous retrouver seule ou avec des invités pour partager des réflexions, des expériences inspirantes, des astuces qui vous aideront à vivre pleinement votre rôle dans ce nouveau paradigme pour un monde qui a grandement besoin qu'on évolue dans nos pratiques vers plus de douceur, de lenteur et de respect. Je m'adresse ici aux parents et aux pros de la petite enfance, mais de manière plus globale à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'enfance, aux relations harmonieuses et à l'épanouissement individuel et collectif. Ouh oui, c'est un vaste et ambitieux programme. Avant tout, je me présente, je suis Laetitia Boivin, créatrice de Maman d'Alune, formatrice passionnée en périnatalité et surtout, maman de 4 merveilleux enfants, de 15, 12, 5 et 2 ans. Parmi eux, 3 sont nés à la maison, librement. Ça a clairement impacté ma vision du monde et influé sur la maman et la pro que je suis aujourd'hui. Il y a 15 ans, je faisais partie de ces rares mamans écolos bizarres, avec leur lubie de maternage. Mes enfants ont tous été allaités et portés des années. D'ailleurs, c'est encore en cours pour ma plus jeune. Avec chacun d'entre eux, j'ai vécu l'expérience de l'hygiène naturelle infantile, du tout lavable. J'ai signé pour enrichir notre communication. Nous avons voyagé à travers plusieurs continents. Et depuis toujours, ils grandissent sans école. Des choix que je chéris chaque jour. En bref, j'ai la chance de voir ma vie pro et ma vie perso se nourrir mutuellement. Ici, pas de jugement et pas de culpabilisation. On chemine ensemble. Vous êtes invité à prendre ce qui fait sens pour vous, ce qui vous fait du bien, et à laisser le reste. Mon objectif n'est pas de convaincre, mais vraiment de vous soutenir. Alors préparez-vous à vivre une aventure joyeuse, intense et pleine de découvertes dans le monde de l'accompagnement respectueux et de la parentalité. Bien le bonjour dans ce 47e épisode, Le sommeil, une histoire à dormir debout. C'est un épisode flash où on va parler des différentes possibilités pour accompagner son enfant vers le sommeil et soi-même pouvoir récupérer des nuits dignes de ce nom. Alors tout d'abord, je dois le dire, je suis désolée, il n'y a pas de miracles qui vont être livrés ici lors de cet épisode-là et je serai, bien malvenue en tant que maman de vous dire quoi faire, sachant que moi, aucun de mes 4 enfants n'a dormi avant 2 ans, voire 3 ans. Et quand je dis dormi, c'est dormi des nuits, de 6-7 heures d'affilée. Pas forcément les nuits de 12 heures qu'on peut voir parfois dans certains magazines ou qu'on peut entendre les voisines nous conter. Donc ici, je vais vous faire un petit topo d'une prestation que je propose en petits groupes lors de cercles de parents. Et depuis peu, je propose des petites fiches mémo. Donc j'avais envie de partager ici les infos qui me semblent le plus utiles pour pouvoir essayer d'avoir des nuits et des endormissements les plus apaisés possibles. Alors, je me base sur plusieurs livres. Je ne saurais que vous recommander la lecture du merveilleux bouquin « Le sommeil du jeune enfant » d'Héloïse Junier, une psychologue qui propose vraiment plein d'ouvrages très intéressants au sujet de la petite enfance, plus ou moins, sur plein de thématiques, avec un côté très respectueux à chaque fois. Également le livre « Dormir sans larmes » du docteur Rosa Jauvet, qui est pareil, très intéressant, avec plein de petites astuces très pratiques. Et l'un des bouquins qui, moi, m'avait accompagnée au tout début de ma parentalité, c'était « Le sommeil, le rêve et l'enfant » de Marie Thirion et Marie-Joséphine Chalamel. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je n'étais pas forcément d'accord, mais en tout cas, je pense qu'il reste avec des petites astuces assez intéressantes tout de même. Donc, on va aborder le sujet du sommeil et notamment le sommeil du tout petit. Déjà, j'imagine que peu d'entre vous ont besoin que je cite les intérêts du sommeil, mais je vais le faire quand même. Ça favorise vraiment la croissance, c'est important de bien dormir car durant le sommeil, c'est là que l'hormone de croissance va être le plus sécrétée. Donc oui, on peut à juste titre être convaincu que c'est important de favoriser un bon sommeil pour notre enfant parce que c'est là qu'il va pouvoir grandir tout simplement. Ça va stimuler le développement du cerveau et améliorer les capacités d'apprentissage et de mémorisation. Toutes les études vont en ce sens, du coup, voilà, c'est important à savoir les fois où on galère à mettre un rythme, où c'est un petit peu compliqué pour nous. Avoir des objectifs comme ça sur du long terme qui nous soutiennent, qui nous font continuer à être motivés quand c'est un petit peu difficile, je trouve ça important. Ensuite, voilà, savoir que le sommeil de bonne qualité, ça va renforcer le système immunitaire. Donc oui, c'est pas rien. En effet, on est en meilleure santé quand on dort mieux, hein, tout simplement. Je pense que beaucoup de mamans qui manquent cruellement de sommeil, sans doute les papas aussi, mais moi c'est plus avec les mamans qu'on échange sur ces thématiques-là, se rendent compte qu'en fait elles sont capables d'attraper le moindre petit rhume qu'elles n'auraient pas attrapé d'habitude et qu'elles ont tendance à avoir les petites maladies infantiles de leurs enfants et de récupérer les petits rhumes qui traînent à droite à gauche parce que en étant fatigué forcément on a de moins bonnes défenses immunitaires. Et donc le sommeil il aide à réguler les humeurs de notre bébé et de nous-mêmes bien sûr. Il prévient donc les problèmes on va dire de comportement. Alors le mot problème n'est pas forcément approprié mais en tout cas il va permettre de temporiser un petit peu plus nos réactions, nos comportements, et bon, quand on voit bout à bout tous ces intérêts très particuliers à avoir un bon sommeil, on comprend que très vite, quand on en manque, ça peut mener à des situations qui sont compliquées, qui sont plus lourdes à porter, à gérer, et donc c'est un petit peu le cercle vicieux. Si on veut résumer vraiment les trois éléments clés d'un bon sommeil, on va parler d'hormones. Il y a trois hormones principales qui vont venir nous aider à favoriser non seulement un bon endormissement, mais un bon réendormissement, c'est-à-dire enchaîner les cycles de sommeil et avoir des nuits plus paisibles. On va avoir tout d'abord la mélatonine. La mélatonine, elle va être produite quand il fait sombre. Donc, on va faire en sorte d'avoir une ambiance lumineuse qui est la plus tamisée possible. On va essayer de penser à baisser les lumières entre 30 minutes et 1 heure avant le moment du coucher. C'est la première chose. Ensuite, on va voir le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Elle va donc perturber le sommeil. Et donc, pour la réduire, on va faire en sorte de trouver un moment plus calme, de proposer de la lecture, des petits massages, de se parler doucement. Ça marche pour tout le monde, c'est vrai que quand on est stressé, en tant qu'adulte, on a souvent tendance à faire des insomnies quand il y a des choses qui nous travaillent. Et donc là, on va faire en sorte, pour faire baisser ce taux de cortisol, d'amener un moment qui est le plus serein possible pour être dans de bonnes conditions pour s'endormir et pour passer une nuit qui soit le plus paisible possible. Et le dernier élément, ça va être la température corporelle. La température du corps est plus basse en général d'un demi-degré au moment où on dort. Puis petit à petit, quand on se réveille, pour arriver plus ou moins aux 37, même s'il y a des variations d'une personne à l'autre. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est aider, accompagner notre enfant pour que sa température corporelle baisse un petit peu avant l'endormissement. Donc pour ça, il peut y avoir des petites astuces comme aérer la chambre, proposer un pyjama qui soit le plus adapté. C'est-à-dire que si il fait relativement chaud, on va vraiment avoir quelque chose de léger. On a souvent tendance à trop couvrir les enfants et ça ne les aide pas pour bien dormir, justement. Après, on peut envisager de donner un bain. Si c'est un bain qui est assez éloigné du moment du coucher, on peut le faire assez chaud parce que le corps étant dans un bain chaud, il va envoyer un signal de refroidir un petit peu la température, mais ça va prendre un certain temps. Donc, il faut que ça soit au moins 1 heure et demie, 2 heures avant le coucher. Si dans notre routine, on a plutôt le bain qui vient vraiment avant l'endormissement, on va essayer d'avoir un bain plutôt tiède, que ça aide à redescendre un petit peu la température. Donc voilà, et les différentes petites astuces que je vais ici vous fournir, il n'y a rien d'incroyable et de merveilleux, il n'y a aucune nouveauté sous le soleil. Je vais vous parler des routines, établir une routine de coucher qui soit le plus constante possible, ça va favoriser un bon sommeil. Cela peut aider donc le bébé à comprendre ce qui va se passer et donc si l'enfant comprend ce qui se passe, ben il est plus apaisé parce qu'il a plus, on va dire, de prise. En fait, les enfants fonctionnent par hypothèse. Dès tout petit, on se rend compte que ils vont formuler plein d'hypothèses différentes dans leur tête et si ce qui se passe après, ça correspond à une des hypothèses qu'ils avaient, leur cerveau leur renvoie un petit message pour dire ok, bien joué, et du coup ça les réconforte. Et vu qu'on a parlé des différentes hormones et qu'on veut faire baisser le taux de cortisol, on va faire en sorte que son cerveau lui dise c'est ok, tu vois, tu savais ce qui allait se passer, tout va bien, tu es dans ton petit quotidien, dans ta petite zone de confort, tout est ok. Et donc pour ça, on va essayer de trouver plus ou moins des petites actions qui vont être récurrentes, qui vont revenir tous les soirs, encore mieux si c'est à la même heure. Et c'est pour ça d'ailleurs que les chronobiologistes ne sont pas pour la semaine de 4 jours, en disant qu'une coupure au milieu de la semaine pour changer le rythme, pour les enfants, c'est plutôt délétère par rapport à leur sommeil. Et par effet domino, pour tous les intérêts que j'ai évoqués en tout début. Donc on va essayer de mettre en place un environnement le plus idéal possible, c'est-à-dire une chambre qui soit plutôt sombre ou avec des couleurs qui sont ce qu'on appelle des couleurs froides, plutôt du vert, plutôt du bleu, pas trop agressif, mais des couleurs qui vont venir tendance à apaiser, qui ne vont pas surstimuler en fait, parce qu'on a tendance parfois à avoir des beaux intérieurs assez punchy, avec plein de couleurs. Sauf que finalement, ça envoie des messages au cerveau, des hey, « regarde par-ci hey, », et « tiens, il y a des choses à voir, il y a des choses à faire », et ça n'aide pas à se mettre en veille et à se mettre dans de bonnes conditions pour s'endormir. Donc on va faire en sorte d'avoir une chambre qui est calme aussi, avec assez peu de choses. On oublie les mobiles qui bougent, on fait en sorte de placer le lit à un endroit où l'enfant va pouvoir avoir quand on rentre et quand on sort. Ça peut aussi être des choses qui sécurisent. Et d'avoir une température qui est confortable, comme on l'a évoqué un petit peu plus tôt. Ensuite, pour éviter la surstimulation, on va faire en sorte, dans l'heure avant le coucher, voire les 2 heures avant, de faire des jeux qui sont plutôt calmes, des jeux qui sont plutôt tranquilles, des lectures. Par exemple, pour vous donner une idée, moi, à la maison, jusqu'à 17h30, 18h, c'est le moment où on fait des activités bien sportives, où on se dépense, c'est le moment d'aller faire du trampoline, d'aller courir dans le jardin, on va faire des balades en vélo. Et après, le moment où on rentre, ça va être le moment de se mettre à table. Et suite à ça, quand on sort de table, c'est directement le temps calme. Alors, je sais que l'idéal, ça serait vraiment d'avoir 2 heures entre le moment où on mange et le moment où on se couche. Mais bien sûr, selon les quotidiens, c'est pas toujours évident à mettre en œuvre. Donc on fait aussi avec nos aléas. Ici, il n'y a aucun jugement. Si vous faites des choses qui sont très différentes, il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est vraiment une liste très terre à terre, très théorique. Et dans la pratique, on fait bien comme on peut. Toujours est-il que nous, après le repas du soir, il n'y a plus de place aux jeux d'excitation, il n'y a plus de jeux moteurs, ça va être vraiment des choses plus posées, plus tranquilles. Bien sûr, les enfants peuvent avoir envie, mais moi je suis là pour les accompagner vers d'autres choses, d'autres propositions. Et petit à petit, en fait, ça devient des habitudes. Et ces habitudes-là, du coup, elles sont rassurantes et elles font que le coucher, qui avait tendance parfois à pas mal s'éterniser, et bien là, petit à petit, il va redevenir dans un timing qui est plutôt acceptable. On arrive plus ou moins au quart d'heure, 20 minutes des fois, de rituel dodo à partir du moment où c'est le temps de brosser les dents, de choisir un bouquin. La petite dernière qui est encore allaitée, c'est le moment de la tétée. Et après, moi, je reste avec eux, je bouquine, en tout cas avec mes deux petites dernières. Je bouquine pendant qu'elles s'endorment tranquillement à côté. Mais voilà, il y a eu plein de routines différentes. Il y a eu la période où c'était un endormissement seulement au sein ou en porte-bébé. Ça a duré très longtemps, pour plusieurs raisons. Déjà parce que pour qu'une chose fonctionne, il faut qu'on soit quand même pleinement convaincu. Et moi, j'étais pleinement convaincue de donner quelque chose de très bon à mes enfants en les portant, en leur offrant comme ça la rassurance dont ils semblaient avoir besoin. Pour moi, il était impensable de les laisser pleurer parce que l'information que j'avais dès le départ, c'est qu'à partir du moment où les enfants pleurent, et notamment pleurent seuls, en fait, ils vont produire une hormone de stress en grande quantité et que ça peut avoir un effet délétère sur le cerveau. Alors, bien sûr, je ne dis pas que vous êtes de mauvais parents si vous laissez votre enfant pleurer. Le sujet n'est pas du tout là. En tout cas, moi, il m'est arrivé personnellement de laisser pleurer mon enfant parce que c'était trop dur pour moi de l'accompagner. Et à ce moment-là, il vaut mieux, quand on sent qu'on n'a plus les ressources pour accompagner un enfant dans la bienveillance à cause de ses pleurs, et c'est un cri d'alerte qui est quand même fait pour nous faire réagir fort, et il est tout à fait censé de poser son enfant, de le laisser pleurer, hurler tout seul, et de nous aller prendre l'air, sortir de la pièce, plutôt que se retrouver dans une situation où on sent qu'on perd le contrôle. Et je rappelle qu'il y a encore chaque année beaucoup, beaucoup trop d'enfants qui sont secoués, des bébés qui sont secoués à plusieurs mois. Et ça, même les premières années, c'est pas seulement des bébés de quelques mois, parfois c'est des bébés d'un an et demi, de deux ans. Donc voilà, c'est hyper important de remettre dans le contexte qu'on fait comme on peut, que nos enfants ont des besoins, qu'on fait en sorte de les accompagner au mieux, mais que nous aussi on a des besoins et que ben, on n'est pas des magiciens et des magiciennes. Des fois, on a des facilités dans certains domaines et puis il y a des choses avec lesquelles on a plus de mal. Le sommeil, c'est précieux. Quand on manque de sommeil, on a une réactivité qui est complètement différente. Et du coup, voilà, c'est important de faire comme on peut, clairement, d'être le mieux, le plus tolérant possible envers soi-même, parce que c'est aussi un exemple qu'on va montrer également pour notre enfant. Et voilà, moi je sais que c'était pas possible pour moi d'envisager la méthode qu'on entend le plus souvent, le 5, 10, 15 minutes, et voilà, du coup le portage était tout à fait adapté à notre situation, donc c'est quelque chose qu'on a beaucoup utilisé, qu'on n'utilise plus systématiquement depuis quelques temps déjà. Et il y a beaucoup trop de parents que j'entends dire « je suis dans une situation qui ne me convient pas parce que je tente des choses avec mon enfant pour qu'il puisse trouver son sommeil tout seul, s'endormir tout seul, parce qu'on m'a dit que j'allais lui donner des mauvaises habitudes. » Mais en fait, ça, c'est une crainte qui est complètement dépassée à mes yeux. Les enfants ont des capacités de résilience qui sont incroyables, et quand on dit que pour nous adultes il nous faut à peu près 21 jours pour avoir une nouvelle habitude, pour un enfant c'est beaucoup moins que ça. En réalité, à partir du moment où l'enfant a déjà vécu trois fois la même situation, il est capable de l'intégrer comme une nouvelle hypothèse, on en parlait tout à l'heure. Et donc l'enfant à qui on veut donner une nouvelle habitude d'endormissement, c'est pas parce qu'il a été porté tout le temps que ça va être plus compliqué ou que ça va être plus difficile. Non, au contraire, on va être présent pour lui, on lui aura offert une proximité qui est suffisamment rassurante pour passer à l'étape d'après. Et puis on peut très bien essayer une nouvelle routine et petit à petit continuer à rester présent à ses côtés et à s'écarter petit à petit quand on sent que c'est ok pour lui et pour nous. Donc pour retourner aux petites choses qui peuvent vraiment faire du bien, il y a le fait en effet de favoriser le contact physique. Les enfants ont besoin de proximité, ils ont besoin de toucher, de câlins, on peut leur faire des massages, on peut faire un peu de peau à peau avec nos petits bébés,
Tout ça, ça va être des choses qui vont vraiment apaiser, les apaiser en profondeur. Tout ça, ce sont des choses qui vont leur faire du bien, qui vont les apaiser et qui vont les aider à s'endormir dans la tranquillité et la sérénité. N'hésitez pas à répondre rapidement aux signaux de sommeil de vos bébés quand vous voyez qu'ils commencent à bâiller, que vous repérez les premiers petits signes où ils se frottent les yeux, où vous sentez qu'ils sont un petit peu grognons. C'est le moment de mettre en place la routine pour pouvoir espérer un endormissement qui est relativement rapide. On va arriver au bout de ce petit épisode flash. Bien sûr, si vous voulez en savoir plus, il est tout à fait possible de venir me voir pour me demander d'intervenir auprès de votre structure. Les petites choses à retenir, en bref, chaque bébé a un rythme de sommeil qui est unique. Les réveils nocturnes chez les bébés sont normaux. Les habitudes de sommeil de ton bébé vont évoluer. Les problèmes de sommeil du bébé sont temporaires. Malgré des conditions de sommeil idéales, de longues nuits ne sont pas garanties. Parfois, tu fais tout ce qu'il faut pour que ton enfant dorme bien. Et c'est pas pour ça qu'il va faire des nuits complètes. Et juste, tu peux rien. Et la seule chose qui marche à tous les coups, c'est le temps. Voilà. Alors, je vous souhaite des nuits qui puissent suffisamment vous reposer pour vous sentir être des parents suffisamment bons. Je vous souhaite une belle fin de journée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.